Manger bio protège-t-il du cancer? Les résultats publiés au début de la semaine par une équipe française pointent du doigt les risques des pesticides dans notre alimentation.
Manger bio, c'est bon pour la santé, c'est désormais prouvé scientifiquement.
L'étude a comparé les risques de cancer chez des individus qui mangent au moins 50% de bio par rapport à ceux qui n'en consomment jamais. Résultat, une réduction du risque de cancer de 25% chez les consommateurs de bio.
Alors, on a beaucoup entendu ces phrases tout au long de la semaine. Produits bio, résidus de pesticides, risque de cancer, sujet donc à la une de la science. Caroline Tourbe, on en parle avec notre invitée.
Oui Mathieu, aujourd'hui nous sommes avec Emmanuelle Caisse-Guyot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'INRA dans l'équipe épidémiologie nutritionnelle de l'Université Paris 13 et vous êtes co-auteur de cette étude dont les résultats font polémique depuis 3 jours. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler le principe de cette étude qui a duré 7 ans au total ?
Alors, cette étude est une étude de cohorte, c'est-à-dire que l'on recrute des volontaires à qui on pose énormément de questions sur leur mode de vie, sur leur santé, sur leur régime alimentaire également, avec des questions très précises sur ce qu'ils consomment. Et ensuite, ces sujets vont être suivis pendant une durée relativement longue. Et on va collecter des informations sur tous les événements de santé, donc dans le cas présent, les cancers, au cours du suivi. Et ensuite, on va analyser nos données en comparant les caractéristiques sur l'exposition qui nous intéresse en fonction du développement ou non de pathologie.
Et donc lorsqu'on regarde votre étude, lorsqu'on regarde les résultats, le tableau qui résume le nombre de cancers en fonction des groupes de consommateurs de bio, gros consommateurs, consommateurs occasionnels ou ceux par exemple qui n'en consomment pas du tout, on voit un résultat qui saute aux yeux. On a vraiment l'impression que le risque de cancer est beaucoup plus faible chez les gros consommateurs de bio. Mais il y a d'autres résultats sur des cancers spécifiques.
Oui, tout à fait. On a une réduction de 25% du risque de cancer toute localisation avec des associations plus particulières sur le risque de cancer du sein en post-ménopause avec une réduction de 34% et le risque de cancer de lymphome non Hodgkinien avec une réduction de 75% du risque.
Donc ça, c'est ce qu'on voit dans votre étude. Mais pour expliquer ces résultats, il y a plusieurs solutions. On pourrait imaginer, par exemple, que ce sont des personnes qui sont également plus sensibles aux messages de santé, font plus de sport, ont de meilleures conditions de vie. Ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte.
Donc c'est la question des biais, hein. Voilà, c'est ça.
Tout à fait. On a plusieurs hypothèses pour expliquer nos résultats. Évidemment, la première hypothèse qui est la plus évidente, ce sont les caractéristiques particulières des consommateurs de bio. Ils pratiquent plus d'activités physiques, ils fument moins, ils boivent peu d'alcool, ils ont un régime alimentaire qui est globalement plus sain, avec des consommations plus élevées de produits végétaux, des consommations réduites en viande, etc. Mais ces facteurs sont pris en compte dans les modèles épidémiologiques, c'est-à-dire que on réalise un ajustement sur ces facteurs qu'on appelle des facteurs de confusion, de façon à essayer de comparer ces petits consommateurs de bio et ces grands consommateurs de bio, tout étant égal par ailleurs.
Donc en prenant en compte ces facteurs de confusion, vous arrivez quand même sur un groupe de gros consommateurs de produits bio qui a moins de cancer. Et là, le lien entre le produit bio et le cancer, il pourrait y avoir par exemple l'idée que ce serait une meilleure qualité nutritionnelle des produits bio. Pourtant, vous faites l'hypothèse la plus probable, vous dites que l'hypothèse la plus probable, c'est les résidus de pesticides.
Actuellement, les différences nutritionnelles entre les produits bio et les produits conventionnels sont assez peu documentées dans la littérature. Il y a quelques données, par exemple, qui documentent des teneurs en vitamine C de la pomme de terre plus élevées, des teneurs en caroténoïdes, des fruits et légumes qui sont plus élevés dans les produits bio. Mais on ne connaît pas à l'heure actuelle les conséquences physiologiques de ces différences de teneurs. Puisqu'évidemment, ces différences de teneurs doivent être prises en compte en fonction du niveau de consommation des individus. Et donc, la modification du statut physiologique qui permettrait éventuellement de protéger la santé, pour l'instant, il n'est pas connu.
Donc, l'hypothèse des pesticides, des résidus de pesticides, elle est plus argumentée, elle est plus probable.
Il y a plus de données dans la littérature concernant un rôle potentiellement délétère sur chez l'individu vis-à-vis des pesticides, avec notamment des hypothèses sur la carcinogénèse liée à ces molécules. Il y a beaucoup de molécules sur des modèles animaux et il y a aussi des molécules dans les populations qui sont exposées professionnellement, en particulier les agriculteurs.
Donc avec cette étude, on le comprend bien, vous ne pouvez pas désigner un coupable. Ce n'est pas une étude qui permet de faire un lien de cause à effet en fait.
Absolument. Notre étude est une étude d'observation, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'observer des comportements. On n'est pas dans de l'expérimentation et donc on observe des associations. C'est un peu plus qu'une corrélation dans le sens où on a pris en compte les fameux facteurs d'ajustement, mais on ne peut pas parler de cause à effet dans ce type d'étude d'observation.
Et pourtant, on sent bien l'amalgame quand même qui est fait immédiatement dans l'interprétation justement de cette étude. Et c'est là tout le problème, parce qu'on lit tout de suite « manger bio réduit drastiquement le risque de cancer ». C'est ça qu'on voit et qu'on entend en ce moment.
Tout à fait. Pour répondre de manière précise à cette question, il faudra mettre en œuvre des études expérimentales, c'est-à-dire des études où on obligerait, entre guillemets, des gens à manger bio et des gens à ne pas manger bio et à les suivre pendant des dizaines d'années pour voir qui tombe malade.
C'est compliqué à mener cette étude.
C'est très compliqué, d'autant plus que l'étude de référence, c'est l'essai randomisé en double aveugle. Mmh. Et bien évidemment, quand les gens mangent, c'est pas en double aveugle, ils savent ce qu'ils mangent. Donc ça, ce sont des études qui, sur le plan humain et financier, seraient très coûteuses. Oui. Et donc les études expérimentales sont quasiment irréalisables dans ce domaine.
L'une des critiques aussi qui vous est adressée, c'est qu'il y a quand même eu des études épidémiologiques qui ont été faites avant, qui, elles, ne montraient pas un lien aussi fort, une association aussi forte entre la consommation de bio et une réduction du risque de cancer.
Aujourd'hui, en termes d'études d'observation en épidémiologie, il y a eu une seule étude qui a étudié cette relation. C'est une étude anglaise qui est parue en 2014. Et la question qui portait sur l'exposition à la consommation bio était beaucoup moins précise que celle que nous avons utilisée. Nous avons utilisé 3 modalités pour 16 groupes alimentaires différents, alors que cette étude utilisait une question qui était générale sur tout le régime alimentaire.
Parmi aussi alors les critiques ou les points qui semblent être soulignés dans votre étude, on a aussi vu qu'il y avait un biais de recrutement. Vous le disiez, les gens sont recrutés, ce sont des gens qui sont volontaires, qui sont sensibilisés de fait à l'alimentation.
Tout à fait. Les études de cohorte sont basées essentiellement sur le volontariat, car on ne peut malheureusement pas obliger les personnes à être impliquées dans une étude. Donc ça a des conséquences en termes de profil des personnes que l'on regarde. Ce sont des gens qui sont un peu plus éduqués. On a beaucoup plus de femmes parce qu'on est sur une cohorte qui porte sur la nutrition et les femmes sont beaucoup plus sensibilisées à ces thématiques. Donc ça, effectivement, ça génère un biais de sélection dans la population qu'on étudie. Toutefois, la population qui est présente dans notre étude existe dans la vie réelle. Et donc, on peut penser que la relation qu'on observe est sous-estimée car il nous manque des gens qui mangeraient très mal.
Emmanuel Casguillot, merci beaucoup.
Et beaucoup de réserves, donc en tout cas beaucoup de recul sur les résultats.
Oui, tout à fait. Il faudra encore
vous-même qui êtes co-auteur de l'étude, oui. Vous le dites, attention à la façon de les interpréter.
Il faudra encore beaucoup d'études avant d'arriver à un consensus scientifique et il faut qu'il y ait des résultats cohérents dans d'autres contextes.
En tout cas, si on en juge par les réactions très nombreuses sur les réseaux sociaux, ça intéresse évidemment beaucoup la population de pouvoir en savoir plus sur ce qu'on mange et le lien évidemment en rapport avec la santé. Donc il faut poursuivre les études dans ce domaine.
Exactement.
Merci beaucoup Emmanuel Casguillot. Merci. Vous étiez l'invité de la Une de la Science aujourd'hui. Caroline, à demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, une épave de 2400 ans retrouvée au fond de la mer Noire. Des chercheurs britanniques et bulgares ont découvert un bateau grec quasiment intact à plus de 2 km de profondeur avec son mât et son gouvernail. Cette épave est l'une des plus anciennes et mieux conservées jamais retrouvées. Cette découverte est un heureux hasard. À l'origine, les scientifiques étudiaient la variation du niveau des mers dans la région lorsqu'ils sont tombés sur le bateau échoué. Avec cette épave, les archéologues espèrent en apprendre beaucoup plus sur la navigation et la construction navale à l'époque antique. Un Internet 100 fois plus rapide, on en rêve. Des chercheurs australiens ont découvert une façon de multiplier la vitesse d'Internet par un facteur 100 grâce à une invention qui pourrait révolutionner les réseaux de fibres optiques. À l'aide d'un nouveau capteur, il serait désormais possible d'analyser la rotation des ondes lumineuses, ce qui permettrait de capter bien plus d'informations à partir des signaux lumineux émis par les fibres optiques. Sachant que ces fibres servent de base aux câbles des fournisseurs d'accès Internet, certains y voient donc l'occasion de doper la vitesse des échanges d'informations. Et puis le Festival Paris Science, ça commence demain. Au programme de cette 14e édition, des documentaires, des courts-métrages et même des programmes en réalité virtuelle sur des sujets d'actualité. Biodiversité, épopée spatiale, manipulation génétique ou intelligence artificielle. À noter que 6 séances seront spécialement dédiées aux familles et que c'est entièrement gratuit. Rendez-vous donc jusqu'au 31 octobre au Muséum National d'Histoire Naturelle ainsi qu'à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Le programme complet de Paris Science est disponible sur leur site parisscience.fr en lien sur la tête au carré.